Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui par exemple de la musique et de l'art avec Paul Klee, le peintre, ce sera en deuxième heure. Avant cela, vous retrouverez aussi Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait de Lisa Marie Marquez et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé du week-end avec Héloïse Goua. Notre infomédia va se pencher sur un site aux 20 millions de visiteurs par mois qui s'appelle Futura Science, vulgarisateur scientifique en ligne depuis plus de 20 ans. Il se lance aujourd'hui dans l'édition avec un épais magazine papier et il veut nous envoyer sur la Lune. Rien que ça, nous serons avec ses deux fondateurs. Et puis nos invités, l'humoriste et youtubeur Mathieu Longat qui revient sur Canal+, avec la saison 2 de sa série Narvalo, manière unique de filmer la banlieue et des histoires de banlieue pas anxiogènes mais hilarantes. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, une légende du cinéma avec nous dans ce studio, Isabelle Huppert. Elle est à l'affiche du film Les Promesses avec Reda Kateb en salle mercredi. Une deuxième heure un peu particulière autour de sa présence à tous les sens du terme. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Héloïse Goua.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias, Héloïse.
Jean-Jacques Bourdin écarté temporairement de l'antenne de BFM TV et RMC. Une nouvelle chronologie des médias signée aujourd'hui. Et puis une enquête sur le bizutage dans le sport, c'est dans le journal L'Équipe.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français. On commence par hier soir ou par le week-end ?
On commence par samedi soir.
D'accord.
France 3 s'est imposée en tête des audiences avec la fiction Le Prix de la Trahison. La fiction portée par Mimi Mati a attiré 3 300 000 téléspectateurs. C'était 17% de l'ensemble du public. TF1 était en deuxième place avec La Chanson Secrète, 3 210 000 téléspectateurs. L'émission s'est néanmoins imposée sur cible, elle a attiré 30% du public féminin. Et puis une déception pour le prime des grosses têtes de Laurent Ruquier sur France 2, qui n'a attiré que 10,9% du public. A noter également que France 5 a battu un record. Échappée Belle proposait une escapade dans le Périgord, qui a attiré 1 510 000 Français devant leur écran. C'est le meilleur score de l'émission pour cette saison.
Et puis on remonte encore un peu dans le temps, qu'ont regardé les Français vendredi soir.
Eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Philippe, France 2, toujours en tête avec Candice Renoir. 5 140 000 téléspectateurs étaient devant l'épisode final de la saison 9. Un score encore supérieur à la semaine dernière. En deuxième place, c'était encore TF1 avec Ninja Warrior. Un score stable par rapport à la dernière émission avec 3 410 000 téléspectateurs. Des chiffres qui ont tout de même placé TF1 en leader sur cible, encore une fois, puisque l'émission a attiré 27% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Et puis, encore une belle performance pour M6 qui s'est classée troisième avec Maison à vendre. 2 170 000 Français étaient devant l'émission présentée par Stéphane Plaza.
Culture Média.
On va tout vous dire. Les audiences d'hier soir ne sont pas encore tombées. On fait le journal des médias et si on a les audiences, on vous les donne en fin de ce journal. Journal des médias qui démarre avec cette info qui concerne Jean-Jacques Bourdin. Il est écarté de l'antenne de BFM TV et de RMC.
Et oui, cela fait suite à une accusation d'agression sexuelle. On vous en parlait la semaine dernière. Le journaliste est accusé d'avoir tenté d'embrasser contre son gré une collègue en 2013. La semaine dernière, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, avait tenu à maintenir Jean-Jacques Bourdin à l'antenne tout en indiquant l'ouverture d'une enquête interne. Mais hier midi, dans un communiqué publié sur le site de BFM, le groupe Altice a indiqué qu'à la demande de la direction, le journaliste se retirait temporairement des antennes BFM et RMC. Le texte précise que, je cite, « ce retrait temporaire de l'antenne permettra d'éviter les instrumentalisations politiques et médiatiques de cette affaire ». Fin de citation. Une décision qui fait suite à l'émission politique « La France dans les yeux » de mardi dernier. Valérie Pécresse avait pris la parole sur les violences sexuelles. Elle avait aussi précisé qu'elle s'était posé la question de sa venue dans l'émission suite aux accusations envers Jean-Jacques Bourdin. Et par la suite, le candidat Yannick Jadot avait de son côté annulé son passage dans l'émission.
Et alors, qui pour remplacer Jean-Jacques Bourdin à l'antenne ?
Eh bien, Apolline de Malherbe se charge de l'interview politique de 8h30 à partir de ce matin. Elle a commencé tout à l'heure. Et pour le prime politique La France dans les yeux, c'est Bruce Toussaint qui prendra la place de Jean-Jacques Bourdin. Dans son communiqué, le groupe Altice rappelle également que Jean-Jacques Bourdin conteste vigoureusement les faits dénoncés et bénéficie de la présomption d'innocence.
On continue avec la signature aujourd'hui d'une nouvelle chronologie des médias.
Et oui, ce midi, les représentants du cinéma et des diffuseurs se rendront au ministère de la Culture pour signer les nouvelles règles qui concernent l'ordre et les délais d'exploitation des films au cinéma. Cette signature fait suite à de nombreuses négociations ces derniers mois. parmi les grands gagnants de cette nouvelle chronologie des médias, Canal+. Pour obtenir une meilleure exposition que les plateformes comme Disney+ ou Netflix, la chaîne a accepté en décembre dernier d'investir 190 millions d'euros par an dans le cinéma. En échange, Canal+ pourra diffuser les films qu'il préfinance seulement 6 mois après leur sortie en salle. Jusqu'ici, la chaîne devait attendre 8 mois. Et de leur côté, les chaînes gratuites, publiques et privées, devront attendre 22 mois pour diffuser un film après sa sortie en salle. Une règle défavorable selon TF1, qui a souhaité en conséquence une totale exclusivité de la diffusion afin d'éviter que ces films ne soient préalablement diffusés sur les plateformes.
Mais alors justement, comment ça va se passer du côté des plateformes américaines ?
Eh bien, Netflix a signé un accord avec les professionnels du cinéma qui l'engage notamment à financer de petits films à hauteur de 3 à 4 millions d'euros. Ça représente tout de même entre 20 et 30 millions d'euros par an d'investissement dans le cinéma. Cet accord lui donnera le droit de diffuser 15 mois après leur sortie en salle les films, pour une durée de 7 mois. Et ce sera plus long pour Disney+ et Amazon Prime, qui de leur côté devront attendre 1 an et demi après la sortie en salle pour diffuser les films. Et face à ces contraintes imposées aux plateformes, la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, a indiqué qu'elle ne signerait pas cette nouvelle chronologie des médias. La SACD considère que ces nouvelles règles risquent de dissuader les plateformes qui produisent de sortir leurs films au cinéma. Si elles sont signées, les nouvelles règles devraient entrer en vigueur le 10 février prochain pour une durée de 3 ans.
Dans l'actualité des médias également, une enquête sur le bizutage dans le sport, enquête à retrouver dans le journal L'Équipe.
2 ans après une enquête qui avait fait beaucoup de bruit sur les violences sexuelles dans le sport, le journal s'attaque cette fois au bizutage. Bizutage qui, je le rappelle, est interdit en France depuis 1928. Une pratique physique et psychologique qui reste profondément ancrée dans le sport et qui peut avoir des conséquences dévastatrices et indélébiles sur les individus et les carrières, selon l'enquête. Le journaliste Jean-Christophe Collin explique la nécessité de cette enquête dans le milieu du sport.
Je ne voyais pas trop le problème, en fait, du bizutage. Moi, j'avais un avis presque positif sur le bizutage en me disant que ça avait une fonction essentielle dans le sport, notamment dans le sport collectif, pour souder une équipe, que c'était un rite initiatique nécessaire et plutôt jovial. Et finalement, j'ai découvert l'autre verre de la médaille. En fait, j'ai découvert que le bizutage, c'était un vrai problème dans le sport et beaucoup plus grave que ce que je ne pensais.
Pour montrer cela, le journaliste a découpé son enquête en 4 chapitres qui explorent notamment les ravages de cette pratique dans le handball, même s'il précise que tous les sports sont touchés à différents niveaux. Le reportage donne également la parole aux jeunes victimes, toutes anonymisées parce qu'elles ont du mal à parler de ce sujet. Tous craignent des représailles ou une exclusion du groupe. L'enquête est également nourrie de témoignages de sportifs célèbres comme Alain Bernard qui a été victime de certaines pratiques criminelles. Jean-Christophe Collin nous raconte ce qui l'a le plus frappé dans cette enquête.
Ce que j'ai découvert au cours de cette enquête, c'est qu'un geste anodin peut avoir des conséquences terribles. Parce que, en fait, on ne connaît pas toujours les personnes avec qui on partage un vestiaire. Et faire subir une petite humiliation à quelqu'un, en fait, ça peut ajouter un traumatisme existant. C'est ce que les spécialistes appellent la valeur traumatique ajoutée, c'est-à-dire que cette petite humiliation, elle va venir déclencher des traumatismes beaucoup plus profonds.
Une enquête qu'il a également menée pour tenter d'ouvrir les yeux du monde du sport.
L'idée, c'est de taper un peu du poing sur la table. C'est une vraie problématique et qui est encore trop présente dans le sport et même à très haut niveau. Et donc, l'idée, à travers cette enquête, c'est de dire il faut que ça cesse. Il faut aujourd'hui, la société évolue. Et aujourd'hui, il y a des pratiques qui ne sont plus acceptables en 2022.
Cette enquête intitulée « Bizutage, enquête sur le fléau du sport » est à retrouver demain dans le journal L'Équipe. Et l'article sera disponible dès ce soir sur le site L'Équipe Explore.
Les audiences, est-ce qu'elles sont tombées ou pas du tout, Héloïse ?
Alors, les audiences d'hier soir, je peux vous dire que TF1 était en tête avec le film « Catastrophe San Andreas », 3 860 000 téléspectateurs. Derrière suivait le film « Sibylle » sur France 2 avec 2 890 000 téléspectateurs. Et derrière, France 3 avec la série britannique inédite « Les enquêtes de Morse » qui a convaincu 2 290 000 téléspectateurs. M6 était au pied du podium.
Il faut parler d'M6 parce qu'hier, il y a une grosse campagne sur Twitter « Je boycotte M6 » parce qu'il y avait un reportage consacré à l'islamisme et son implantation dans la ville de Roubaix. Les scores, quatrième.
Eh bien, 2 110 000 téléspectateurs, soit 10,6% de part d'audience.
Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain. demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, c'est notre info média du jour qui décolle. On part sur la Lune, c'est le projet de Thomas Pesquet, mais c'est aussi le projet d'un site d'info en ligne qui se lance dans l'aventure de l'édition avec un magazine, ça s'appelle Futura. Il y a 20 millions de personnes qui le lisent sur Internet. Guillaume Josse, le fondateur, et Vincent Louquezet, son rédacteur en chef, seront nos invités. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Alerte, alerte et breaking news. Le centre de la Terre se refroidit plus rapidement qu'on ne le pensait. De nouvelles mesures de conductivité thermique suggèrent que la Terre se refroidirait plus rapidement que ce que l'on croyait jusqu'à présent, je viens de le dire, laissant penser que l'activité tectonique de notre planète pourrait s'arrêter plus rapidement que prévu. C'est ce genre d'infos que l'on peut lire depuis 20 ans sur le site Futura Science, l'un des pionniers de la vulgarisation scientifique en ligne, qui atteint aujourd'hui les 20 millions de visiteurs par mois. Aujourd'hui, le site ne se repose pas sur ses lauriers numériques et il se lance dans l'aventure de l'édition papier avec la sortie d'un magazine dense et science. Bonjour Guillaume Josse.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Futura. On dit Futura ou on dit Futura Science ?
Alors Futura. Aujourd'hui, c'est Futura. Futura Science était effectivement notre ancien nom. Voilà.
D'accord. Et Vincent Louquez avec nous en studio. Vous êtes le rédacteur en chef.
C'est ça, bonjour.
Alors, rassurez-nous, cette histoire de noyau terrestre qui se refroidit, c'est pas une fake news et c'est pas pour tout de suite.
C'est pas une fake news et c'est pas pour tout de suite. C'est effectivement, c'est les informations qu'on a sur le site de Futura qui sont bien développées.
Et c'est pour quand ?
Il y a un petit peu de temps.
Mais c'est quoi un petit peu de temps ? C'est un million, un milliard d'années, 10 millions, 10 milliards ? Vous êtes scientifique, c'est combien un petit peu de temps ?
Moi, je suis pas scientifique, je suis journaliste, mais sur cette information-là, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas travaillé directement sur cet article. Je vous conseille d'aller voir le site directement.
Guillaume Josse, vous avez la réponse ?
Moi non plus, tout de suite, là, je ne l'ai pas tout de suite.
Bon, alors j'espère que vous avez la réponse, Guillaume Josse, de savoir comment est né Futura il y a 20 ans.
Effectivement, Futura, c'était il y a une vingtaine d'années, donc en 2001. L'envie pour moi à l'époque, c'était sur Internet de proposer un site d'information justement fiable, où je vous promets, on a toutes les réponses et nos journalistes proposent des informations, en tout cas vérifiées. L'enjeu de Futura, toujours en 2022, c'est de rendre les sciences accessibles. Donc, on propose beaucoup de formats avec un suivi de l'actualité, en tout cas des dossiers de fond, aussi des formats aujourd'hui multimédia pour justement donner les clés à tout un chacun de comprendre un peu les évolutions du monde par le prisme de la science.
Il y avait 5 grandes catégories, si je me souviens bien. Science, technologie, planète, santé et maison. À quoi ressemblait Futura il y a 20 ans ? Déjà, c'est constitutif de ce qu'était Internet il y a 20 ans. Ce n'était pas les prémices, mais c'était un peu les balbutiements. À quoi ça ressemblait Futura ?
Exactement, Internet était vraiment à ses débuts, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de sites, c'était pas très joli à l'époque, hein. Les interfaces étaient beaucoup moins fluides et ergonomiques qu'aujourd'hui, donc pour entrer sur Futura, il fallait cliquer sur un gros bouton, mais il y avait déjà ce que vous pouvez retrouver en substance aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment de l'actualité, du texte, on avait déjà pas mal d'images aussi pour justement permettre aux internautes de se projeter un petit peu dans ce que sont les sciences. Les sciences, ce n'est pas seulement les racines carrées ou les plans inclinés qui pouvaient nous faire peut-être peur dans nos années collège ou lycée, mais c'est aussi beaucoup de belles choses qui permettent d'explorer et de comprendre le monde. Donc, c'était simple à l'époque, c'était du texte. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de vidéos. Mmh. Et petit à petit, on s'est adapté pour suivre justement les évolutions d'Internet qui s'est professionnalisé. Et cet environnement, justement, nous a permis de nous développer et de construire aujourd'hui une marque qui est plutôt bien installé.
Et justement, puisque vous parliez de vidéos, une évolution majeure de l'arrivée des réseaux sociaux, vous avez 1,2 million d'abonnés sur Facebook. On est allé voir ce que vous produisez sur Facebook, justement, et là, vous avez raison d'en parler, beaucoup de contenu vidéo. Exemple avec le triangle des Bermudes, expliqué en moins d'une minute.
Problème numéro 1. L'archipel des Bermudes, c'est le sommet d'une montagne de 4000 mètres qui est entouré de récifs affûtés qui éventrent les coques des bateaux quand ils passent.
Problème numéro 2.
Le triangle des Bermudes est sur la trajectoire de différents cyclones et différentes tempêtes tropicales, notamment celles de l'Amérique latine, de l'Atlantique et du Golfe du Mexique. Les différents vents et courants qui traversent la région engendrent pas mal de vagues scélérates.
Mais qu'est-ce que c'est les vagues scélérates, mon petit Billy ?
Les vagues scélérates, c'est juste un mur d'eau de 20 ou 30 mètres qui peut traverser un pétrolier ou un porte-conteneur.
Ok, problème numéro 3.
Les fonds marins du triangle des Bermudes sont tapissés de poches de méthane. Et ces poches, quand elles explosent, elles libèrent du gaz. Et en remontant à la surface, toutes ces bulles, en fait, elles vont ruiner la portance des bateaux. Ils vont se retrouver instantanément vers le fond. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé des bateaux sans aucune égratignure.
Tout ce qui est raconté est évidemment totalement vrai. On voit que l'ambiance est très funky, il n'y a pas les images, mais déjà au son, on sent qu'il y a un effort de mixage. Guillaume Josse, quelle est votre stratégie en termes de vidéo ?
En termes de vidéos, on essaie d'être présent justement sur les plateformes qui donnent la part belle à ce format. Donc, c'est évidemment comme ce que vous venez de présenter, c'est les réseaux sociaux qui sont très variés. Il y a évidemment, en tout cas, les réseaux sociaux plus anciens comme Facebook. Il y a aussi les petits nouveaux, les petits troublions comme TikTok, Snapchat. Donc, on essaie de proposer des formats adaptés différents à ces plateformes puisque les audiences sont différentes. Certaines ont vieilli et donc ça peut être effectivement des sujets plutôt d'entertainment, ça peut être des sujets un peu plus poussés et construits pour justement comprendre les sciences. Notre enjeu, c'est vraiment que tout internaute qui croise Futura, ouais, notre marque, puisse derrière en fait apprendre quelque chose. Donc en ayant lu un contenu Futura, en ayant vu une vidéo, on doit pouvoir retenir une information et en tout cas aussi s'amuser. Et la science, c'est quelque chose de...
C'est un peu la même promesse que beaucoup de youtubeurs vulgarisateurs scientifiques. Quelle est votre différence?
La différence, c'est que alors, la force des youtubeurs, c'est l'incarnation par leur personne. Nous, notre force, ça va être nos équipes, nos journalistes. Futura aussi, a aussi des voix, a aussi des visages. Mmh. Mais on a accès à une information qui peut être différente. On travaille beaucoup avec des experts aussi. C'est-à-dire qu'on a plus de 400 experts qui sont des scientifiques et des chercheurs qu'on interroge, qui participent avec nous à ces formats. Ça peut être par exemple lors de live. Il y a une grande mission, spatiale qui se passe tous les ans. Donc, que ce soit vers Mars ou la Lune, on a des invités lors de ces émissions. Donc, on propose des formats complémentaires. Après, l'internaute s'identifie parfois plus à un YouTuber, parfois plus à une marque média. Mais voilà, on travaille pour les mêmes causes.
Ça, c'est pour la présentation de Futura. Oui. Maintenant, il y a une nouveauté, c'est Futura Papier, le numéro 1 qui est en kiosque depuis vendredi. Vincent Luquez, vous êtes le rédacteur en chef. Est-ce que vous savez, tant est qu'on puisse le savoir, si les personnes qui regardent les vidéos sur Facebook deviennent ensuite les lecteurs du site et puis du magazine papier?
On l'espère, entre autres. On a essayé de travailler pour ça sur l'interactivité entre les différents formats. On a mis dans le magazine notamment des QR codes, des renvois vers des formats plus interactifs. On a par exemple des articles Histoire des sciences à chaque fin de dossier. Mmh. Et ces articles Histoire des sciences qui racontent un peu des anecdotes sur des personnages un peu oubliés ou des événements un petit peu oubliés qui ont fait l'histoire de la démarche scientifique. On renvoie avec ces articles vers des podcasts qu'on a enregistrés en complément. Mmh. Futura fait des podcasts depuis déjà longtemps, on en a fait d'autres. Et ces formats permettent d'avoir une version audio de l'article augmentée avec d'autres informations. Voilà. Puis on renvoie aussi vers d'autres articles du site qui complètent les dossiers qu'on traite dans le magazine. Donc, quatre grands dossiers, peut-être, pour revenir rapidement sur le contenu du magazine.
On va en parler juste après. On marque une courte pause. Vincent Luquez, Guillaume Josse. Le QR code, vous le voyez sur europe1.fr. Je vous dis à tout de suite. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
On parle de Futura Science, ce site qui est devenu un magazine, il s'appelle désormais Futura, c'est sous-titré la revue qui rend la science accessible. Le numéro 1 vient de sortir, numéro épais à dos carré dans tous les kiosques et les bonnes librairies. Nous sommes avec Guillaume Josse, c'est le fondateur, Vincent Luquez, le rédacteur en chef de ce magazine papier. Guillaume Josse, Futura est donc devenu un magazine. Pourquoi tenter l'aventure du papier? Vos 20 millions de visiteurs par mois, ça ne vous suffisait pas?
C'est une excellente question.
Merci.
C'est vrai qu'en tant qu'acteur web, ça peut paraître surprenant, justement, de sortir, en tout cas, d'un petit confort qu'on peut avoir. Mais c'est à la fois un soin entrepreneurial de pouvoir développer la marque Futura en dehors du web, mmh, et aussi de proposer un format qui est très complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des façons d'explorer les sciences, de proposer des contenus assez différents. Donc, c'est comme ça qu'on a construit le mag avec Vincent. Avec des enquêtes et parfois justement des sujets qu'on a moins le temps de développer. Mmh. Ça apporte aussi, en tout cas, du recul et un confort pour nos lecteurs. C'est-à-dire que sur Internet, on est soumis à beaucoup, beaucoup de perturbations. On a les notifications de notre téléphone. Et un Mac, c'est aussi un objet, un support physique. On peut s'asseoir dans son canapé, on peut le lire dans son lit. Et donc, c'est une façon de pouvoir rendre les sciences encore plus accessibles, telle qu'est la promesse justement du mag.
Alors, je ne l'ai pas encore dit, 226 pages, ce n'est pas rien. Et pour la modique somme de 19 euros, ce n'est pas si cher que ça, vu la qualité de ce qu'on peut y lire. Vincent Luquez, au sommaire de ce Futura numéro 1.
Alors, quatre grandes questions. Comme le disait Guillaume, justement, là, sur le magazine, on essayait vraiment de mettre en avant le temps long, de dire aux gens, prenez le temps de vous documenter en profondeur sur des sujets sur lesquels on reprend les bases sur des grands sujets de science, pour que ce soit vraiment accessible à tout public, à des néophytes comme à des passionnés. Donc, on reprend vraiment sur les quatre thématiques qui font aussi le site science, environnement, santé, tech. Là, quatre questions. Quel mystère nous cache encore la Lune? Explorer un petit peu ce que peut nous apprendre la Lune. Peut-on tout soigner grâce aux gènes? C'est un peu d'actualité en ce moment, évidemment, avec les ARN messagers, entre autres, mais aussi beaucoup d'autres choses passionnantes qu'on peut découvrir grâce aux gènes. Comment est-ce qu'on va essayer de guérir les cancers, de régénérer des organes, de transplanter de nouveaux organes grâce aux gènes? Question d'environnement avec l'agriculture. Comment nourrir le monde sans le détruire? Énorme enjeu d'avenir aussi, avec bientôt 10 milliards d'individus à nourrir sur Terre. Comment faire en sorte de nourrir tous ces gens sans détruire l'environnement, sans réchauffer le climat, etc. Donc aussi une grande question qu'on explore en 50 pages. Et puis une question plus tech avec l'intelligence artificielle, aussi une thématique extrêmement présente aujourd'hui dans notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle va-t-elle devenir un jour vraiment intelligente? Question aussi assez abyssale qu'on tente d'explorer en reprenant les bases, en réexpliquant aux gens, voilà, finalement, ça veut dire quoi l'intelligence artificielle, le deep learning, les réseaux de neurones? Tous ces termes qu'on entend tout le temps et qu'on ne comprend pas trop.
Voilà. Et parfois, vous êtes même rattrapé par l'actualité. Vous m'avez dit, pendant la pause, que votre temps de bouclage, c'était 2 semaines. Et il y a ce grand papier de 4 pages. Quand les cochons nous donneront des transplants, eh bien, ce futur est devenu un présent. Puisqu'il y a le premier cœur de cochon qui a été greffé sur un homme aux États-Unis entre le moment du bouclage et la sortie du numéro. Donc, vous aviez les bonnes infos.
Exactement, c'était une bonne nouvelle. Effectivement, ça montre aussi la logique. Ce qu'on veut faire, en tout cas, c'est d'être à la fois dans le temps long, mais dans ce qui va venir dans l'actualité au fur et à mesure de l'année 2022. On dit aux lecteurs, voilà, les années à venir vont être pleines d'enjeux, de débats sur cette thématique, sur ces grandes thématiques d'avenir. Nous, on tente de les argumenter, les outiller sur la longueur.
Alors, on va s'arrêter sur ce dossier de la Lune qui fait la une du magazine. C'est un souhait qu'avait formulé le spationaute Thomas Pesquet à son retour sur Terre, retourné sur la Lune, extrait de la conf de presse qu'il avait donnée à Cologne, c'était le 12 novembre dernier.
L'idée, c'est de retourner vers la Lune, mais de manière plus, comme l'a dit Dave, de manière plus durable, en utilisant les ressources in situ pour y établir une présence un peu plus permanente et pour des buts scientifiques en coopération, comme on le fait sur l'ISS. Je pense qu'aller se poser le pied sur la Lune, c'est quand même ce qu'il y a de plus excitant. Évidemment, les gens l'ont déjà fait il y a quelques années ou il y a quelques décennies, mais quand même, il n'y a pas eu d'Européens. Et là, ce sera, à mon avis, dans une démarche très différente. Donc ça pourrait être quand même une grande aventure, surtout qu'ensuite, là, maintenant, on le conçoit comme aussi une préparation pour aller vers Mars. Donc, si on me donnait le choix à moi, ce qui n'est pas le cas, je tiens à le répéter une fois de plus, moi, je choisirais d'aller poser le pied sur la surface. Mais je pense que quasiment tout le monde aurait le même choix.
Vincent Louquiez, pourquoi retourner sur la Lune?
Pour découvrir plein de choses. On a plein de questions sur l'eau sur la Lune, notamment. Est-ce qu'on va trouver de l'eau sur la Lune? Est-ce qu'on va trouver d'autres réponses?
Vous dites qu'il y en a, alors. Il y en a, parce que vous dites qu'il y en a.
On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme, comment la découvrir. Donc, il y a le premier instrument scientifique français qui va lunir en 2024. On est allé voir les chercheurs qui travaillent sur cet instrument, Dorn. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. La Lune, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un laboratoire du cosmos. À travers la Lune, on peut aussi apprendre des choses sur l'univers en lui-même, sur l'univers primordial, grâce notamment à ce qu'on peut voir sur la face cachée, grâce à des télescopes qui permettraient de voir de l'univers lointain. Donc il y a plein de questions qu'on explore dans le magazine qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans l'univers.
Et puis il y a une idée formidable de mise en page. Vous montrez le vide sidéral entre la Terre et la Lune, tout cela est en noir, et on voit la Lune et la Terre à leur véritable échelle, et ça fait totalement rêver. Guillaume Josse, on va parler finances. Une campagne de financement participatif a été mise en place sur Ulule pour le premier numéro. 4000 préventes ont été atteintes, avec 100 000 euros de levée. Pourquoi ce choix? C'est la seule façon d'exister, de se lancer?
Oui, c'était une façon raisonnable en tous les cas de démarrer, d'amorcer justement ce projet par Internet. C'était aussi une façon de rencontrer nos lecteurs, de leur proposer d'être partie prenante de ce projet.
Et ça a marché.
De le fonder avec nous.
C'est quoi le modèle économique de Futura? Parce que ce n'est pas un mensuel, ce n'est pas un trimestriel. C'est quoi? C'est un numéro annuel? C'est un ballon d'essai?
Alors, le MAG, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de publicité. Parce que justement, on est passé par les préventes. On a des soutiens aussi de partenaires historiques qui ont cru dans le MAG et des entreprises qui l'ont acheté pour le distribuer à leurs salariés. Mmh. Donc, ça nous a permis de construire un premier modèle justement sans publicité. C'est comme ça qu'on souhaite l'installer dans le temps. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un premier ballon d'essai. On a un grand sondage. On va collecter les avis de nos lecteurs pour voir un peu ce qu'ils en pensent en termes d'accessibilité, en termes de format. On a pris beaucoup de goût. On a pris grand goût justement à la presse et au papier. On a envie de proposer d'autres rendez-vous. Et on va en tout cas les imaginer aussi en fonction de ces retours. Mais il y a de fortes chances que vous nous reverrez cette année justement avec d'autres numéros, d'autres formats.
Cette année, donc pas l'année prochaine.
on va essayer de revenir avant. En tout cas, le format annuel est un beau pari et on aimerait l'installer peut-être comme un Michelin ou un Goemio. mais on va proposer d'autres choses.
D'accord. Et non, je vous souhaite la même réussite que le guide Michelin. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume Jose. Vous sortez le numéro 1 de Futura aujourd'hui.
Merci
Vincent Luquez. Vous êtes le rédac chef. Merci d'avoir été avec nous. Et puis aussi, on peut vous voir sur futurascience.fr. Dans un instant, on va parler de la série Narvalo sur Canal+, plus d'un an après le lancement réussi de cette OVNI télé. Bah, c'est la saison 2. Nous serons avec le scénariste, réalisateur Mathieu Longatte. À tout de suite dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu Longatte.
Bonjour.
Humoriste le lundi, youtubeur le mardi, acteur le mercredi, réalisateur le jeudi, rappeur le vendredi et en colère toute la semaine. J'emprunte cette description, ce portrait de vous au magazine SoFoot qui dressait justement votre portrait en 2020 au lancement de la série Narvalo, au lancement de la saison 1. Et votre actu, c'est la saison 2 de cette série. Elle démarre ce soir sur Canal+ et quand on veut sur MyCanal. Avant qu'on en parle, déjà, ça situe. Ça veut dire quoi Narvalo? Ça vient d'où?
Bah, Narvalo, alors c'est un mot qui vient de la communauté gitane. Et en gros, c'est le... allez, ça pourrait être le chèque. C'est un peu le cassos, disons l'ami qui fait systématiquement des mauvais choix et qui du coup a de bonnes anecdotes à raconter.
C'est une série qui est née en 2020, je l'ai dit. L'idée de base, elle est inscrite sur l'écran, inspirée de galères réelles. Donc voilà pour le point de départ. Et ensuite, vous en faites quoi?
Bah, en gros, à chaque fois, on se retrouve dans un groupe de potes et un va partir dans une anecdote récente qui est arrivée et on va se projeter avec lui un petit peu dans son cinéma. Et il y avait l'idée de ça, notamment en banlieue, mais je pense que c'est vrai surtout particulièrement sur une classe d'âge, etc. On s'ennuie beaucoup. Pour meubler cet ennui, on fait des conneries. Et après, ça nous occupe encore beaucoup de raconter ces conneries qu'on a fait. Donc il y avait un peu cette idée-là de ramener une série sur le storytelling et parce que s'il y a une place, c'est un peu la manière dont on se raconte nos souvenirs raconte aussi quelque chose de nous, je trouve souvent.
C'est pas facile de résumer Narvalo, la bande annonce y arrive.
Ils sont de retour avec leurs plus belles histoires de loose.
Mais il s'est passé quoi en fait?
Mais non!
Oh non!
Il y a tellement de choses à raconter.
Je vais niquer ta vie, à toi et à toute ta famille, t'as compris?
Et là, du coup, j'ai un mauvais pressentiment, tu vois, je sens tout venir.
Il me la met, je le vois venir, il me la met quand même.
C'est pas fini, mon frère.
Sinus, cosinus, racine carrée de...
Création décalée.
Laisse tomber.
Narvalo, nouvelle galère, le lundi à 22h55, seulement sur Canal+.
Vous aviez à SoFoot, c'est une série qui fait du sale. Ça veut dire quoi faire du sale?
Bah que je sais pas, c'est moi qui avais dit ça comme ouais. Ça, c'est possible. Ouais. Dans le sens où dans lesquels les personnages font du sale, disons.
C'est ça, faire du sale. C'est quand on fait une phrase et qu'on regrette ensuite. C'est ça,
exactement,
faire du sale.
Voilà, non, c'est ça.
Voilà, vous l'avez dit, vous auriez pas dû le dire, ça résume très bien. Alors, il faut raconter le dispositif. Il y a un double récit. Il y a un type qui raconte une histoire à ses potes, entremêlée de la scène telle qu'elle a été vécue.
Exactement.
C'est ça le principe.
Ouais,
et il faut dire le décor, c'est la banlieue, mais c'est pas la banlieue des médias.
Bah, je sais pas, moi c'est la banlieue que je connais en tout cas et c'est vrai que j'ai l'impression que souvent dans les fictions françaises on fait jamais déjà de la banlieue et des banlieusards des gens dont la présence sont enviables du coup ouais, pour moi c'est vraiment le décor, mais il y a pas de... En vrai ces histoires elles sont assez universelles, elles peuvent arriver à peu près à tous les gens, à peu près partout en France.
Mais c'est vrai que vous êtes quand même en bas de barres d'immeubles. Mais ça pourrait être partout.
Oui,
les histoires de tromperie de l'épisode 1, ça pourrait arriver n'importe où.
Exactement.
En France.
Et il y avait cette idée aussi, parce que souvent c'est très étanche, on voit la banlieue comme des barres de cité interminables, alors qu'en vrai c'est pas du tout. Voilà, il y a des zones pavillonnaires, des zones d'immeubles, et c'est moins étanche que la manière dont c'est présenté souvent.
Voilà, mais en même temps, vous savez, les médias, ils vont filmer quand ça va mal, et donc c'est pour ça que les médias vont dans les banlieues difficiles. Et puis il y a un glissement de sens, vous qui êtes très attentif aux mots, on va en parler. Autrefois, on disait les jeunes délinquants des quartiers difficiles. Et puis c'est devenu les jeunes des quartiers difficiles, puis c'est devenu les jeunes des quartiers.
Ouais, voilà.
Donc maintenant on a l'impression que toute la banlieue est comme ça, mais non, c'est une minorité qui pose problème en banlieue. Et vous ne vous intéressez pas à ça, il n'y a pas cet effet de loupe un peu facile. Alors je l'ai dit, des histoires d'adultère, des histoires de baston, il y en a partout. Ce qui est complètement neuf dans Narvalo, c'est par exemple des galères au permis de conduire, exemple. Je souris parce que j'ai vu l'épisode hier, je me marre encore. Un jeune black qui s'est fait retirer son permis de conduire, il a été contrôlé à un péage d'autoroute alors qu'il conduisait en bleu de travail. Il raconte ça à ses potes, extrait.
Il a perdu son permis encore, c'est dommage.
Comment ça t'as perdu le permis toi?
Comment il a encore perdu le permis, tu veux dire frérot?
Bon les gars, faut vraiment que j'y aille, j'ai des bails à faire. Fred, on se revoit de toute façon.
Ça fait plaisir, je suis dans le secteur.
Ok, ça va.
Merci frérot, t'es bien vu. Hein.
Tiens-vous, ça, ciao.
Tu t'es fait péter comment? Frère, j'ai une de ces poisses, ils m'ont contrôlé, j'étais en bleu de travail, ces enculés.
Mais t'as pas de taf.
Oui, je sais ça. Mais justement, depuis que j'habite là-bas, pour venir ici, je prends le péage. Du coup, je m'habille en bleu de travail. Comme ça, je vais skier le contrôle.
Mais frère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu prends un péage pour aller au café, tu mets un bleu de travail, t'as pas de taf. Mais frère, t'as serré ou quoi? Ils ont raison, faut t'arrêter là.
Et toi, tu rigoles à ça, toi déjà?
Bah ouais, gros, il a raison.
Mais n'importe quoi, frère. J'habite à Passy maintenant, c'est hyper loin. Je prends le péage, je gagne un peu de temps, je paye 3 euros.
Mais pourquoi tu vas pas au café là-bas? T'habites là-bas, mon gars.
Mais ta gueule, pourquoi tu cries? C'est normal que je vais pas là-bas. C'est pas mon quartier, les gars. Je sais pas. Vous êtes pas là-bas. Moi, je viens pour vous aussi.
Alors, en dehors de l'humour et de l'amitié, c'est vraiment une combine utilisée, conduire en bleu de travail pour pas payer, pour pas se faire arrêter?
Alors non, c'était quelqu'un qui m'avait... ça pourrait être une technique utilisée, mais c'était quelqu'un qui m'avait raconté qu'il avait perdu son permis en bleu de travail. Ça lui avait tellement percé le cœur que j'avais retenu cette anecdote. Mais oui, on est très créatifs pour garder notre permis de conduire.
J'ai aussi choisi cet épisode parce que vous jouez dedans, et je le précise, à chaque fois, les comédiens et comédiennes changent.
Ouais, complètement, d'un épisode à l'autre et d'une saison à l'autre aussi, parce que bon, on retrouve quelques comédiens de la saison 1, mais de ceux qui racontent une histoire, il y a que Samir de Casa qui revient dans l'épisode de l'entreprise pour refaire, pour rejouer. Bah oui, il y avait cette volonté-là de moi, j'aime bien chercher des talents, et j'ai l'impression qu'il y a plein de talents, et surtout il y a plein de talents qui sont pas assez mis en avant, donc j'avais l'impression que je pouvais aller chercher des talents
et des amateurs.
Oui, il y a de tout. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec la dichotomie entre comédien amateur et professionnel.
Ah bon?
parce que souvent, j'allume ma télé et ils sont censés être professionnels et je les trouve très mauvais. Alors que mes comédiens, je les trouve très bons, même quand ils n'ont pas mis les pieds sur un plateau.
Juste un mot, je pense à tous les professeurs de théâtre qui nous écoutent, aux directeurs de cours qui nous écoutent. Il n'y a pas de différence entre les comédiens pros et les comédiens amateurs.
J'irai pas jusque-là, mais à partir du moment où... disons qu'avec du travail, je pense que... Enfin, que c'est un travail qui peut s'apprendre sur le moment d'être sur un plateau, qui peut se préparer aussi via des répétitions, et que parfois quand on est armé, justement quand on est un vrai vivant, on peut réussir à ramener une fraîcheur à l'écran que quelqu'un qui réfléchit trop ou qui se regarde trop jouer a plus de mal à faire, quoi.
Il y a une fraîcheur également dans cette série Narvalo, ça vient des histoires, ça vient de la réalisation, ça vient également du vocabulaire. On marque une courte pause et on en parle, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Mathieu Langade, comédien mais surtout concepteur et réalisateur de la série Narvalo, c'est la saison 2 qui démarre aujourd'hui, ce soir, sur Canal+, et quand on veut, évidemment, sur MyCanal, une série, je le disais, totalement rafraîchissante. Il y a de l'humour, il y a un contexte, et en même temps, ce qu'il y a d'extraordinaire au sens étymologique du terme, qui sort de l'ordinaire, c'est le vocabulaire. On va entendre, et j'ai besoin de vous, on va entendre quelques expressions, exemple, prises dans le deuxième épisode.
Eh vas-y, j'aimerais bien trouver un meuch de C quand même. Oh.
C'est quoi un meuch de C?
Un meuch de C, c'est un gramme de cocaïne.
Voilà. autre exemple dans le deuxième épisode.
Mais t'es en train de me dire quoi? Que la banquière, elle est fly comme toi?
Ça veut dire quoi, la banquière, elle est fly comme toi?
Et qu'elle est défoncée comme toi, quoi, qu'elle est en l'air comme toi.
Ah ouais, et les banquières, elles sont comme ça dans...
Bah là, il y a un ami qui a fait une connerie et qui essaie de mettre ça sur la banquière et ça étonne son compagnon, ouais.
Ou alors encore un exemple que j'ai trouvé dans le quatrième épisode.
J'étais parti pécho du pilon.
Ça veut dire quoi, pécho du pilon?
Aller chercher du shit.
Voilà, j'ignorais ça. Il y a une tête de Dixa.
Dixa, c'est le verlan de sadique, mais du coup, c'est associé aux gens très salaces.
Voilà. Moi, je suis de plus en plus rata. Je ne devrais pas dire ça, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça doit être rapta, je pense.
Rapta.
C'est être défoncé. Il y en a beaucoup, 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 énormément de synonymes pour la défonce. Ça vous a échappé.
Et se touche les bzzz.
C'est les bzzzl en arabe, c'est les seins.
D'accord, j'ai encore appris un mot. Il y a aussi une inflation de termes typiquement banlieue, frère, frérot, gros, la vie de ma mère, truc de ouf, fils de pute, je vais te défoncer, ferme ta gueule, vas-y, ta gueule, ça casse les couilles. Ils le disent tout le temps. Sur une minute, il peut y avoir 30 secondes occupées par ce mini vocabulaire que je viens de donner ici.
Bah, c'est vrai qu'il y a parfois des espèces de tics de langage qui deviennent, mais je ne sais pas si c'est symptomatique de la banlieue ou d'un âge, ça aussi, c'est peut-être plutôt un âge, mais où ça devient un petit peu notre ponctuation. Ouais. Ça vous a pas échappé.
Voilà, mais on comprend très très bien et c'est très très drôle évidemment. Je joue un peu volontairement au naïf, mais les bzzz, je viens de l'apprendre. Il faut aussi avoir les codes. Exemple, on est dans l'épisode 4, il y a 5 potes qui se racontent une histoire, ils sont au pied d'un immeuble et il y a 3 autres types qui arrivent. Dialogue.
Excusez-moi les gars, vous savez, il y a un four.
Wesh, tu vois pas, on est en train de parler là? Il y a écrit Wesh des bolos. Eh, vas-y, la chave là.
Bonne journée.
Eh, cousin, les potos, ils disent même pas bonjour, il y a un four. C'est quoi, je suis un vendeur d'artimon?
Au-delà de la vanne, c'est quoi un four?
Un four, c'est les endroits, en gros, c'est le hall du bâtiment dans lequel. Enfin, l'endroit dans la cité où on vend le shit, quoi.
Ah, ce que le ministre de l'Intérieur appelle des points de deal.
Absolument.
Voilà, ça s'appelle un four. Est-ce que c'est une série politiquement correcte?
Je sais pas si elle est politiquement incorrecte. Donc si elle est pas politiquement incorrecte, c'est peut-être qu'elle est politiquement correcte.
Je vais vous dire, sur les trois premiers épisodes, les méchants, ce ne sont que des blancs. Jamais les noirs, jamais les arabes. Deuxième épisode, c'est un black qui achète de la drogue à un dealer blanc. Le troisième épisode, c'est Aziz, jeune musulman qui boit pas d'alcool, qui se fait embaucher dans une entreprise où il n'y a que des blancs. Ils sont tous cyniques, hypocrites, seulement intéressés par le fric. Et je cite, hardcore avec les meufs. Est-ce que c'est votre vision du monde ou est-ce que c'est ce que vous vouliez mettre en avant dans cette série ?
Non, pas du tout. C'est un hasard total et je pense que j'ai pas assez de mémoire encore moi le matin, mais je pourrais trouver autant de contre-exemples d'exemples que vous avez donné. Et après, non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment que dans ce sens-là, du coup, parce que moi je trouve pas ça du tout remarquable dans le sens à remarquer. Et je trouve ça surtout beaucoup moins remarquable que le surusage des Noirs et des Arabes dans des rôles stéréotypés de délinquants ou de gens violents dans le paysage.
Ça, c'était il y a 20 ans. Depuis, le politiquement correct est passé par là. Maintenant, c'est terminé. C'était le sens de ma question.
Ah bon, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes qui ont des rôles d'avocats, de juges, qu'on retrouve. Est-ce qu'on les retrouve à l'écran comme on les retrouve dans la vie ? J'ai pas cette impression.
Moi. J'ai pas dit ça. Je dis que les rôles de délinquants, désormais, sont occupés par des Blancs. Et c'est très sensible, notamment dans les séries de France Télévisions, justement, pour renverser ce stéréotype dont le cinéma français a beaucoup, beaucoup souffert.
Oui, je vois. Après, les gens, moi, je ne fonctionne pas comme ça. En fait, j'ai l'impression que, à titre personnel, du coup, c'est des problématiques que j'ai essayé de résoudre assez jeune et j'arrive du coup à occulter un petit peu les couleurs etc. des gens. Après, c'est vrai qu'il y a des groupes audiovisuels qui le font avec, qui s'y essaient avec plus ou moins de spontanéité ou de maladresse. Ça, je veux bien vous l'accorder. Mais en vrai, moi, il y a même des prénoms d'arabes, ça va être un personnage blanc. Moi, je prends le meilleur acteur pour chaque rôle et je fonctionne vraiment comme ça. Et ouais, encore une fois, je pense qu'il y a autant d'exemples que de contre-exemples que je pourrais trouver là.
Avec la saison 2, vous êtes passé d'épisodes de 13 minutes à 20 minutes. Pour quelle raison ? Parce que vous aviez la place ? C'était une demande de la chaîne aussi ? Parce que parfois, c'est mieux de faire plus long.
Non, ça a énervé tout le monde parce qu'on avait un tout petit peu plus d'argent pour le faire et j'ai écrit beaucoup plus. Donc ça a été encore plus compliqué à produire. Mais non, il y avait cette idée de les retours sur la saison 1. C'était beaucoup que les gens étaient frustrés de ne pas passer un petit peu plus de temps au milieu de ce groupe de potes. Et du coup, il y avait l'idée de se dire bon, écoutez, si vous êtes bien avec eux, on va y rester un petit peu plus longtemps.
Mais on est très bien avec eux, avec ces bandes. Au dernier festival Cannes Série, vous disiez que l'un des buts de votre série, Narvalo donc, était, je vous cite, de rendre appréciable la compagnie des banlieusards. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et pour quelle raison ?
Moi, je connais que des banlieusards heureux, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais l'impression qu'on fait des banlieusards, des gens dont la compagnie est enviable, alors que déjà, il y a une espèce de petite fascination de société, souvent pour la banlieue, et que c'est plutôt des gens qui suscitent l'interrogation ou la curiosité. Et surtout, encore une fois, je pense que on a aussi beaucoup de défauts, mais on a souvent des anecdotes marrantes. On a souvent beaucoup été amené à gérer l'ennui, et du coup, on a appris à raconter les histoires avec ce qu'on disait tout à l'heure, parfois un vocabulaire particulier, une culture de la vanne souvent assez unique. Et du coup, moi, c'était juste, il n'y a pas de projet. Quand j'écris de manière très spontanée, mais très spontanément, moi, j'écris des choses. J'écris la banlieue de manière enviable parce que j'ai toujours aimé y être. Quoi.
Très spontanément, il peut se passer deux choses vu la qualité de Narvalo. Soit une saison 3, soit un long métrage.
Ouais, je vais essayer de faire les deux, mais je suis très fainéant, mais je vais essayer de faire les deux.
En vrai, on vous a déjà proposé le long métrage ?
Moi, je suis très énervant parce que je pitch qu'à l'oral et je sais pas solliciter un rendez-vous. Mais oui, j'ai des idées. Il y a des gens qui aimeraient bien que j'écrive, je crois.
D'accord. Et puis, vous avez une activité de dingue. Je racontais votre portrait fait par SoFoot. Vous êtes fait connaître sur YouTube sous le pseudo Bonjour Tristesse. Ça existe toujours ?
Ouais, j'ai le dernier épisode à faire. Ça va être
épisode. Il est pas fait non plus.
C'est le dernier, le centième, le dernier, centième.
Et vous arrêtez ?
Et j'arrête, mais je vais retrouver un autre concept pour continuer à me défouler sur les politiques un peu parce qu'ils le méritent de plus en plus.
Et puis, il y a l'élection qui se présente. Je vous apprends rien. L'état des gueux, ça existe toujours ou pas ?
Oui, l'état des gueux, tous les vendredis à 21h30 au République. C'est un spectacle très rigolo et où on se retrouve tous ensemble et on rigole tous ensemble, chacun sur tous. C'est très agréable.
En préparant cet entretien, j'ai vu ceci qui m'a vraiment étonné. Vous dites que le confinement, vous l'avez dit à l'UMA, peut-être vous allez me dire, je ne l'ai pas dit, que le confinement était l'une des plus belles périodes de votre vie.
Là, j'ai été recentré vis-à-vis de moi-même et puis on s'est tous retrouvés. C'est comme si le monde entier s'est vu mon rythme lui être imposé. Et du coup, j'étais en osmose avec le monde qui m'entourait. Ne rien faire. Enfin, moi, je me lève. Mon heure biologique, c'est 13h31. Donc, autant vous dire que c'est pas 9h57. Et du coup, ne rien faire, profiter de la vie, profiter des gens qu'on aime, regarder des séries et des films qu'on aime. C'était très agréable.
Un immense merci pour vous, à vous, Mathieu Longat, non seulement pour cette série Narvalo, la saison 2 qui démarre aujourd'hui sur Canal+, et aussi d'être venu en plein milieu de votre nuit. Vous allez retourner vous coucher maintenant.
J'apprécie vraiment. Non, mais c'est parce que c'était très agréable. Merci pour l'accueil. Vraiment.
Et je précise qu'on est en direct dans Culture Média, qui continue évidemment après les infos de 10h. Les télescopages de Bruno Donnet. Bruno a mis la main sur un prof de médecine qui trouve les médias beaucoup trop optimistes dans leur traitement de la pandémie du Covid. Et puis notre invité pour le film Les Promesses, ça parle de la banlieue, ça parle de politique. Notre invité, c'est Isabelle Huppert.